Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité Marc Sagemann. Vous êtes docteur en psychiatrie, en sociologie, spécialiste du terrorisme islamiste. Vous avez travaillé pour la CIA. Vous êtes à Paris parce que vous avez participé à la conférence inaugurale du séminaire Plateforme violence et sortie de la violence. Vous êtes parfaitement francophone parce que la CIA vous a bien appris le français.
Marc Sagemann. J'ai grandi ici.
Voilà, je voulais vous faire entendre effectivement la voix francophone de Marc Sagemann et on va revenir à une actualité qui a endeuillé la France il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, les attentats du 13 novembre.
6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. À l'extérieur de l'enceinte, porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. 5 minutes plus tard, rue Alibert, 2e attaque. Les terrasses d'un bar et d'un restaurant, le Petit Cambodge, viennent d'être prises pour cible. 21h32, rue de la Fontaine au Roi, un nouveau bar est mitraillé. Entre-temps, au Stade de France, 21h30, une 2e explosion. Un autre kamikaze déclenche sa bombe, cette fois porte H. Aucun doute, les attentats sont coordonnés. 21h40, une polo noire se gare devant le Bataclan. Des spectateurs assistent à un concert de rock. 1500 personnes dans la salle. 3 terroristes, peut-être 4, ouvrent le feu. La France vient de vivre la série d'attentats la plus meurtrière de son histoire.
Marc Sagemann, votre analyse sur ce qui s'est déroulé en France le 13 novembre 2005 ?
Mon analyse n'est pas terminée parce que, en fin de compte, j'ai pas encore toutes les données. J'attends le procès parce que c'est là qu'on révèle la plupart des données. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a, c'est plutôt des reportages de journalistes. Alors, il y a du vrai, il y a du faux, et c'est très difficile, surtout sur les tueurs.
Qu'est-ce qui vous manque pour vous faire un avis autorisé sur ce qui s'est déroulé le 13 novembre?
Les interviews de celui qui a été d'abord
Salah
arrêté.
Salah Abdeslam.
Oui, ça. Ce qui s'est passé en Syrie, parce qu'en fin de compte, ça a été un peu téléguidé de Syrie. C'est un peu comme le 11 septembre l'attentat à Mumbai en 2008. C'est vraiment...
Dans cet hôtel de luxe.
C'est pas simplement l'hôtel, il y avait une gare, tout ça, pendant 3 jours, alors que ici, le 13 novembre, c'était plutôt, ça a duré quelques heures, alors que là-bas, à Mumbai, ça a duré 3 jours.
Alors, quels sont les points communs entre ces deux opérations?
Ces deux opérations, et j'inclus le 11 septembre, ces 3 opérations étaient des opérations militaires de l'extérieur. Et c'est assez rare, en fin de compte, dans le terrorisme, d'avoir ces opérations extérieures. Quoique en France, 3 des tueurs étaient français. Les autres étaient belges et irakiens. C'est un peu la même chose, quoi. Soit à Mumbai, il y avait 10 Pakistanais, et bien sûr, le 11 septembre, il y en avait 19, 15 Saoudiens.
Pourquoi est-ce si rare les opérations extérieures? Est-ce que c'est difficile à monter? Est-ce que finalement c'est superflu parce que on trouve dans ces différents pays suffisamment de personnes prêtes à se lancer dans le terrorisme, Marc Sagemann?
La plupart le terrorisme, normalement, c'est la grande majorité, plus de 90%, c'est un terrorisme domestique. C'est-à-dire les gens qui... c'est le terrorisme maison. Des gens qui grandissent dans un pays, qui deviennent hostiles envers leur gouvernement d'abord, la société ensuite, et qui conduisent des attentats. Et ça, c'est vrai depuis la Révolution française. Au 19e siècle, il y avait bien sûr les républicains, d'abord qui étaient les premiers terroristes. Après, il y avait eu les anarchistes, et il y a un terrorisme de gauche, il y avait un terrorisme de droite, maintenant un terrorisme religieux. Donc, les mécaniques sont à peu près les mêmes. Mais là, venant de l'étranger, c'est plutôt presque une guerre entre deux États, presque. Sauf que l'organisation terroriste n'est pas un État. Sauf l'État islamique était un État. Eux, ils pensaient qu'ils étaient un État, alors que l'Ashkai-Taiba qui a lancé l'opération de Mumbai n'était pas un État, ni Al-Qaïda. Mais c'est à peu près la même chose.
Alors, si l'on reprend l'évolution du terrorisme, parce qu'en France, il y a eu des actes terroristes avant même l'épisode sanglant du GIA, autrement dit, il y a un peu plus de 20 ans, il y a eu des actions menées notamment contre la synagogue Copernic, contre un restaurant juif de la rue des Rosiers. L'une des différences, Marc Sageman, c'est qu'à l'époque, il n'était pas question de kamikaze. Est-ce que le psychiatre que vous êtes est capable de savoir là aussi qu'est-ce qui incite un individu à se donner la mort, à devenir un kamikaze, à faire un attentat suicide ?
En fin de compte, c'est pas un suicide. La façon dont eux, ils pensent, c'est plutôt un sacrifice de soi pour sa communauté. Donc, ils pensent que c'est presque le contraire d'un criminel. Un criminel, c'est plutôt par son propre intérêt qui tue des gens. Alors qu'un terroriste, non. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il se sacrifie pour sa communauté. Mais ça, on le voit depuis le début. Le premier kamikaze, comme on dit, est un horloger de Senlis en décembre 1789. Il s'était fait sauter, il a tué 25 personnes, et c'est un record qui a tenu pendant 130 ans. Ça a été simplement surmonté avec l'attentat de Wall Street en 1920. Donc, ce sacrifice de soi-même n'est pas... c'est assez typique. Mais mourir comme ça et rechercher à mourir, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. En fin de compte, c'est venu d'abord d'une communauté chiite au début des années 80. Il y avait les Tamil Tigers...
Les tigres tamouls.
Les tigres tamouls qui faisaient ça. Après, il y a le PKK. Et finalement, Al-Qaïda a commencé à utiliser la même technique. Et maintenant, c'est un peu comme la mode. Ça s'est répandu très rapidement.
Un processus d'imitation. Le cas des tigres tamouls, où il était question donc d'obtenir l'autonomie d'une région ou du Sri Lanka, en tout cas, d'une partie... ou de la totalité du Sri Lanka, est un cas assez édifiant, Marc Sageman, parce que là, on a affaire à des attentats suicides comme arme de guerre, et on voit bien que, au bout du compte, ça ne fonctionne pas. L'État islamique, la parenthèse n'est pas encore complètement refermée, il va probablement y avoir des métamorphoses, mais on voit bien que finalement, ces stratégies sont des stratégies qui ne donnent pas beaucoup de résultats, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, en fin de compte, les gens commettent des attentats parce qu'ils ont des revendications politiques. Mais une fois que la violence éclate, l'audience, c'est-à-dire la population, oublie complètement les revendications politiques et ne s'occupe de la violence. Ils ne comprennent pas la violence. Pour eux, la violence n'était pas provoquée et tout ça. Et donc, il y a un genre de paradoxe d'utiliser ce genre de tactique. Effectivement, à part les mouvements de libération nationale, la plupart des mouvements terroristes n'ont pas eu beaucoup de succès.
Alors pourquoi cette imitation ? Pourquoi, alors même que dans les mouvements de libération nationale, généralement le terrorisme n'est qu'une action, il y a généralement beaucoup d'autres actions concertées. Comment cela se fait-il qu'il y ait finalement autant de facilité sur certains théâtres d'opération à recruter des terroristes, Marc Sageman ?
C'est une genre d'identification, c'est-à-dire c'est la création de cette idée de cette identité sociale politique. Par exemple, les mouvements de libération, normalement, ils sont toujours contre un impérialisme étranger, et c'est très difficile pour les étrangers d'avoir la population indigène s'identifier avec les étrangers. Et c'est pour ça que la plupart des mouvements de libération nationale gagnent. C'est parce que c'est le poids des chiffres, des noms. Mais pour ce genre, le genre de terrorisme domestique, c'est tout à fait différent. Là, c'est plutôt un genre d'engrenage, une mécanique où les gens ont une surestimation de leur popularité dans la population, et donc ils pensent que quand ils vont faire des attentats, beaucoup plus de personnes vont les suivre, mais ce n'est pas le cas en fin de compte.
Et c'est pour ça que ça échoue.
Et c'est pour ça que ça échoue, oui.
En France, il y a aujourd'hui un grand débat sur les revenants, sur ces personnes qui sont censées donc revenir de Syrie, qui avaient rejoint les rangs de l'État islamique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a beaucoup de personnes qui deviennent ce qu'on appelle « foreign fighters », des combattants étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers pendant la Révolution française. Il y avait des Italiens, des Polonais qui étaient là. Il y avait des Français qui étaient partis en Grèce en 1820. Il y avait bien sûr des Français, des Américains qui étaient partis en Espagne dans les années 1930.
Alors, c'est une comparaison qui choque beaucoup, le fait de comparer ceux qui rejoignent l'État islamique avec, par exemple, les brigades internationales en Espagne. Quand on vous dit que ça choque Marc Sageman, qu'est-ce que vous répondez ?
En fin de compte, non. C'est vraiment les gens qui partent pensent et ils ont les mêmes idées en tête. Leur communauté est attaquée, ils vont la défendre. Et donc, c'est.
Pour les brigades internationales, ça n'était pas la même communauté. C'était une communauté haute, c'était porter secours aux républicains espagnols.
Oui, mais il y avait aussi une communauté anarchiste à Barcelone, et la plupart sont partis à Barcelone plutôt qu'au reste. Il faut un peu voir ce qui s'est passé pendant la guerre civile.
Mais laisse la comparaison, poursuivez votre raisonnement.
Alors, ces gens qui font la guerre, vont à l'étranger, font la guerre, il y en a beaucoup qui sont déçus. Et donc, ils reviennent et eux ne veulent plus rien. Ils veulent plus rien faire pour la révolution ou pour l'État islamique et tout ça. Mais il y en a qui sont là-bas, qui sont des vrais durs et qui reviennent et qui veulent faire des attentats maison. À peu près 10% du total. La plupart des gens veulent être surtout soldats à l'étranger. Mais le problème, c'est comment distinguer. Comment détecter ceux qui sont sérieux quand ils reviennent de la masse de ceux qui reviennent? On a fait une erreur. Tout le monde ment, bien sûr. Personne n'a été soldat. Ils ont tous été infirmiers. C'est assez difficile. Bon, quelquefois, les réseaux sociaux, on voit des photos, parce que ce sont des gens qui sont assez fiers de ce qu'ils ont fait. Donc, ils s'en prennent en photo, ils envoient des Twitter, des films et tout ça. Et comme ça, on peut les repérer.
Ce qui est quand même, là aussi, un phénomène très nouveau, puisque quand vous prenez, par exemple, l'histoire de l'OLP, et l'artificier de l'OLP était quelqu'un dont on ne connaissait pas le visage. Aujourd'hui, le moindre djihadiste est quelqu'un qui a sa page Facebook. Comment expliquer cette évolution, Marc Sageman ?
L'évolution est simple. L'OLP était une organisation qui était beaucoup plus âgée, c'est-à-dire avec l'âge, il n'y a plus de sécurité dans ces organisations terroristes. Normalement, les grandes organisations terroristes, c'est un amalgame qui est créé avec le temps, et donc il y a plus de sécurité, il n'y a plus de secret, il y a une discipline, et ainsi de suite. Alors là, ça devient presque une armée. Alors que la plupart de ces jeunes n'étaient pas formés comme ça, ils venaient avec beaucoup d'enthousiasme, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient, et donc ils envoyaient à leurs copains des photos d'eux, des Twitter de ce qu'ils faisaient.
Mais je vais vous poser une question, Candide. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes qui rejoignent aujourd'hui les rangs de l'État islamique, par exemple, ils sont plus narcissiques que les terroristes d'antan ?
Non, c'est un peu la même chose, mais on n'avait pas les technologies dans le temps de le faire. Donc, on écrivait des lettres et on faisait autre chose. Mais ça, c'est plutôt avec la technologie maintenant. Je ne pense pas qu'ils sont plus narcissistes, non.
Le retour de ces jeunes, ou de ces moins jeunes d'ailleurs, qui étaient sur le théâtre des opérations et qui désormais voudraient revenir en France, il y a un certain nombre de cas aujourd'hui qui sont médiatisés, Marc Sageman. Est-ce qu'on peut les déradicaliser? Est-ce que ça a un sens, selon vous, la déradicalisation?
Ni la radicalisation, ni la déradicalisation ont un sens, parce que ça veut trop dire, et c'est un peu un terme qui veut tout dire, donc... Et les gens utilisent ça dans différents sens dans la même phrase. Par exemple, la radicalisation veut dire et l'acquisition à une idéologie radicale et le passage à l'acte. C'est tout à fait différent. On peut passer à l'acte sans idéologie, on peut avoir l'idéologie sans passer à l'acte. Mais donc, il y a une confusion énorme et moi, j'essaye d'utiliser des termes comme le passage à l'acte parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'analyse. Alors, la déradicalisation, les gens pensent que c'est un phénomène ou idéologique ou c'est un phénomène médical, psychiatrique, psychologique. Non, non, non. La violence politique est d'abord et surtout politique. Et ce qui me frappe, c'est aucune discussion politique avec ces gens qui reviennent.
Aucune discussion politique, par exemple. Quelle discussion devrait-on avoir, selon vous?
Ils vont en Syrie pour protéger leur communauté, c'est-à-dire les musulmans qui sont morts sous les bombes tonneaux d'Assad. Et ça, on n'en parle pas. Et après, ils sont en colère contre l'Ouest, parce que l'Ouest commence à les bombarder. En septembre 2014, ils ont commencé. Et de là, la vague d'attentats contre l'Ouest a commencé. Il y avait avant, bien sûr, un attentat en Belgique, à Bruxelles, contre le musée juif qui... c'était avant tout ça, mais la cible n'était pas l'Ouest, la cible était des Juifs, parce qu'il y a un antisémitisme au-dessus les attentats contre les sociétés à l'Ouest, que ça soit en Angleterre, aux États-Unis, en France, tout ça, c'est après le début des bombardements de l'Ouest en Syrie. Donc pour eux, ils voient que c'était la guerre, c'est la continuation de la guerre, mais maintenant à l'Ouest.
Comment les juger, ces gens-là?
C'est difficile, parce qu'il faut analyser ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, il faut comprendre leur degré de culpabilité à leurs actions. Et il y a un continuum de comportement, c'est-à-dire, si jamais on prête... de l'argent à un ami d'enfance aux États-Unis, ça, c'est material support for terrorism. Donc, c'est 25 ans de prison.
En France, dans le cas d'Abdelkader Merah, c'est plus une question donc d'idéologie d'endoctrinement, dans quelle mesure l'action d'un frère sur son petit frère peut inciter le passage à l'acte, vous en pensez quoi?
C'est une question très très difficile. Les gens mentaient pendant le procès, c'est très très difficile de savoir ce qui s'est passé.
Mais vous qui êtes expert psychiatre, puisque vous êtes là justement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme vérité au-delà du mensonge.
J'ai interviewé une trentaine de terroristes en prison, c'est tout différent, les cas sont différents et donc il faut vraiment juger chaque cas par cas. Abdelkader Merah, j'ai aucune sympathie, mais il a été tout de même acquitté du meurtre, de complicité de meurtre, et ça je suis d'accord. Mais pour le reste, il a vraiment influencé son frère, et comment conceptualiser ça, on ne sait pas encore.
Marc Sageman, vous vous êtes fait connaître après le 11 septembre 2001. Depuis le 11 septembre, il y a eu des milliards dépensés dans la lutte contre le terrorisme, notamment par la CIA, puisque vous êtes un ancien de la CIA. Est-ce qu'on a obtenu des résultats?
Oui et non. C'est-à-dire que oui, on a capturé ou tué beaucoup de gens d'Al-Qaïda, les gens qui étaient dans le complot du 11 septembre, même les chefs d'Al-Qaïda, donc c'était assez réussi ça. Mais avec l'intervention, surtout qu'on y était fort, et avec l'invasion de l'Irak, on a créé beaucoup plus de terroristes qu'on en a éliminés. On voit que maintenant, c'est 16 ans plus tard, et les choses ont empiré.
Constat d'échec, donc ?
Ça évolue. Il y a des petites victoires, il y a des grands échecs. C'est un mixed bag, comme on dit en anglais.
Rétrospectivement, est-ce que le 11 septembre, dont le dossier est un dossier extrêmement épais, est-ce qu'il témoigne d'échecs patents de l'antiterrorisme américain ? Est-ce que tout ce qui s'est déroulé ce jour-là, est-ce que cela ne pourrait plus arriver aujourd'hui, Marc Sajman ?
Aux États-Unis, non, ça peut plus arriver de la façon dont ça a été fait. Et on voit très bien que la plupart des attentats maintenant aux États-Unis sont des attentats solitaires qui ont très peu de liens à l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'on détecte les gens. Donc, de ce côté-là, il y a eu un grand progrès. Mais de l'autre, comme je dis, il y a eu une déstabilisation du Moyen-Orient, beaucoup plus de morts. Il y a l'invasion de l'Irak qui était une erreur stratégique.
Et puis l'autre élément qui est apparu depuis le 11 septembre 2001, c'est la montée du complotisme avec un mouvement qui est important aux États-Unis, qui est Reopen 911, donc des gens qui sont sceptiques à différents niveaux vis-à-vis de ce qui s'est déroulé durant le 11 septembre 2001. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là, Marc Sajman ?
Y a des gens qui sont des conspiracy theorists, je ne sais pas comment on traduit ça en français.
Des complotistes, des partisans du conspirationnisme.
Et on peut leur parler en psychiatre, je sais très bien. On peut parler aux gens pendant des années.
En psychiatre, qu'est-ce que vous leur...
Il y a des gens qui ont des idées fixes et puis on ne peut pas les sortir de là.
Et cette fois-ci non plus en psychiatre, mais du point de vue du gouvernement américain, des médias, est-ce qu'il y a des choses que l'on aurait dû faire, que l'on n'a pas fait pour contrer ce conspirationnisme ?
Non, mais aux États-Unis, comme en France, comme un peu partout, il y a ce conspirationnisme. Tout le monde en a. C'est beaucoup plus commun que les gens le pensent.
Marc Sajman, vous restez avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, qui est un titre en anglais, puisque « Turning to Political Violence », donc le fait de se convertir à la violence politique, c'est votre livre qui n'est pas encore traduit en français.